Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Chromebook, la nouvelle génération d'ordinateurs de Google. Quand Google m'a demandé d'être ambassadrice de leur nouvel ordinateur portable, j'ai tout de suite été hyper intéressée. J'utilise Google pour tout. Entre mes différentes activités et adresses Gmail, j'ai des agendas partagés dans tous les sens et plein de fichiers sauvegardés dans le cloud. Du coup, j'étais vraiment intriguée à l'idée de découvrir ce fameux Chromebook et à vrai dire, étant un peu old school en la matière, je ne savais pas trop si j'allais accrocher. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas été déçue. Déjà, mon Chromebook est ultra léger, je le glisse dans mon sac et l'emmène partout avec moi, c'est hyper pratique. Et deuxièmement, j'ai accès à toutes les applications de la G Suite, comme Google Docs par exemple. C'est simple, tout se fait sur le cloud, mes documents s'enregistrent et se synchronisent automatiquement. C'est vraiment idéal pour bosser à plusieurs avec mes équipes. Bref, vous l'aurez compris, si vous recherchez un ordinateur portable efficace, pratique, sécurisé et avec une interface vraiment intuitive, alors je ne peux que vous recommander le Chromebook. Personnellement, je l'ai adopté encore plus vite que je ne l'imaginais. Salut la team podcast, ici Pauline Agneau et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi avec les leçons, c'est le moment coaching du Gratin et je réponds à toutes vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du recrutement, du management, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus. Alors aujourd'hui, je suis avec Maureen qui a créé Les Petites Bouteilles depuis environ un an. Vous pourrez retrouver d'ailleurs son site sur le site web lespetitesbouteilles.com ou via son compte Instagram au même nom. Débordée, submergée, Maureen n'arrive pas à organiser son temps. Elle se demande si elle doit engager quelqu'un et comment faire dans la mesure où elle n'a pas de financement extérieur et ne se paye pas depuis plus d'un an. Sentir submergé quand on entreprend, c'est un peu la base. Même au bout de 8 ans de boîte, ce sentiment me prend aux tripes régulièrement. Et quand ça arrive, je sais qu'il faut que j'agisse vite, car je deviens un goulot d'étranglement pour ma propre entreprise. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a des solutions, même quand on n'a pas beaucoup de sous sur son compte bancaire. J'ai donc expliqué à Maureen la méthode que j'emploierais à sa place. Premièrement, faire un état des lieux de la gestion du temps. Il est fort probable que Maureen passe 80% de son temps en réaction à éteindre des feux, des urgences, plutôt que de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour son entreprise, pour son développement, pour générer du chiffre d'affaires. La première étape, donc, pour reprendre son calendrier en main, est de choisir et d'arrêter de subir. Deuxièmement, commencer par travailler avec des freelances ou stagiaires si vraiment elle estime qu'elle doit embaucher, plutôt que de prendre le risque de se précipiter et d'embaucher presque par peur panique. Parce que dans ce genre de cas, le risque est grand de se planter en termes de recrutement, avec des conséquences souvent dramatiques pour soi, mais aussi pour son futur collaborateur. Troisièmement, enfin, si elle a vraiment besoin de se financer pour pouvoir embaucher typiquement, qu'elle n'hésite pas à chercher des aides parce qu'il y en a. La levée de fonds est un mot qui fait peur, un gros mot presque, mais on n'est pas obligé de lever 1 million d'euros dans la vie. Sa famille, ses amis pourraient tout à fait aussi souscrire au capital de son entreprise contre un financement, même de quelques dizaines de milliers d'euros. Une démarche en fait pas si compliquée et qui pourrait donner un petit matelas bien utile à Maureen. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Maureen ?
Oui, bonjour.
Salut, bienvenue sur Le Gratin, c'est Pauline Lignot.
Merci.
Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et puis me poser ta question ?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Maureen, j'ai une société et je vends de la demi-bouteille de vin depuis maintenant un an par Internet. Et j'aurais besoin, en fait, sûrement d'engager une personne. Alors, je ne sais pas s'il faudrait que j'engage une personne en CDI, en CDD, sachant que je n'ai pas de financement. Je fais tout actuellement toute seule. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient, comme moi, engager et qui n'ont pas de financement, je posais la question de est-ce qu'il existe des aides ou comment faire pour correctement embaucher quand vraiment, déjà nous-mêmes, on n'a pas de salaire, quoi.
Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu gagnes quand même un petit peu d'argent avec ton activité ou pas du tout ? C'est-à-dire que, je veux dire, tu commences à avoir du chiffre d'affaires ?
Alors, on commence à avoir du chiffre d'affaires qui n'est pas encore exponentiel. Et donc, du coup, ça ne me permet pas de pouvoir déjà, moi, me faire un salaire. Donc, du coup, c'est vrai que de plus en plus, en fait, je suis obligée de faire un peu moins bien mon travail puisque je dois tout faire. Je suis touche à tout. Et en fait, j'aurais besoin d'une personne en plus qui, bien sûr, pourrait avoir un salaire. Donc, du coup, j'avais réfléchi à peut-être essayer de trouver un partenaire qui pourrait aider à injecter de l'argent et donc, du coup, qui travaillerait avec moi et qui chercherait également, comme moi, à se faire son salaire. Et en même temps, de plus en plus, quand je rencontre les personnes, je me rends compte que...
Un associé, tu veux dire ?
Voilà, à chaque fois que je rencontre des personnes, même pour des associations, je me rends compte que de plus en plus, ils me demandent, en fait, finalement, quel sera mon salaire de base en sortie de moi, quoi.
Ouais. Bah, écoute, moi, je vois trois potentielles solutions à ton problème. La première, c'est effectivement de trouver un associé. Bien souvent, quand on crée une boîte, et moi, c'était le cas, par exemple, on se paye pas. Et du coup, pour que les personnes acceptent de ne pas être payées, il faut qu'ils soient associés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des parts dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que concrètement, il va falloir que vous notiez sur un papier, que vous alliez voir un avocat, mais ça coûte pas très, très cher de le faire. Ça doit coûter, tu vois, quelque chose comme, 800 000 euros pour un truc très très simple dans un premier temps, juste que vous disiez « Ok, on se répartit les parts de telle et telle manière. » Donc mettons 51%, 49% ou 50-50 ou autre si jamais tu estimes qu'il faut faire quelque chose de différent. Mais disons que l'avantage de ça, c'est que c'est vrai que ça va te permettre quand même de trouver une personne, en tout cas d'avoir une personne qui travaille pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire pour développer l'entreprise en sachant qu'il est payé en fait finalement en capital et pas tu vois en salaire sonnant et très bûchant. Ça, c'est une première solution, mais après, c'est pas une solution miracle parce que trouver un bon partenaire, comme tu dis, un bon associé, c'est extrêmement difficile. Souvent, ça prend du temps et puis c'est hyper risqué parce que si la personne, c'est pas la bonne personne, tu vois, signer un pacte d'actionnaire où tu cèdes 50% de la boîte, c'est quand même très, très casse-gueule. Donc, c'est la première solution, mais c'est pas la plus simple. Une deuxième solution, c'est effectivement des aides, comme tu m'en as parlé. En fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'aides à la fois de banques qui aident de jeunes entrepreneurs. Ça peut être des prêts étudiants aussi. Certains entrepreneurs font ça. Ça peut être, par exemple, des prêts aussi familiaux, tu vois. Donc, sous la forme, par exemple, d'une petite levée de fonds familiale où, en gros, tu vas demander à ta famille, à tes amis d'investir dans ton entreprise. En échange de quoi, évidemment, tu vas leur donner des parts. En fait, c'est pas si compliqué que ça à faire et tu peux, moi j'ai par exemple un ami qui a fait ça, tu vois, et qui a levé quelque chose comme, je crois, 20 000 euros. Donc, ça peut être aussi des sommes qui sont raisonnables. Ce n'est pas forcément les sommes dont on entend parler dans les médias, tu sais, de millions d'euros. Et ça peut être fait de manière un peu plus simple aussi avec des amis. Donc ça peut être une deuxième solution, je dirais, de trouver un financement extérieur, soit via des aides, soit via une petite levée de fonds de ce qu'on appelle du love money. Et ça, si tu tapes un peu sur Internet, je suis sûre que tu pourras trouver des informations sur ce sujet. Et enfin, la troisième solution, je dirais que c'est en fait de focaliser absolument toute ton attention sur générer du chiffre d'affaires pour pouvoir, non pas embaucher tout de suite, mais pour pouvoir avoir des freelances, pour pouvoir peut-être prendre un stagiaire qui pourront te permettre, si tu veux, d'avoir une personne qui t'aide pour gérer ce que tu as à faire au quotidien. Et donc, il y a peut-être, si tu veux, dans tout ce que tu fais aujourd'hui, un certain nombre de tâches qui sont des tâches très chronophages pour toi, mais qui ne créent pas de valeur n'aident pas, si tu veux, à générer du chiffre d'affaires. Alors, tu vas me dire, oui, mais je ne peux pas passer que ma vie à faire du chiffre d'affaires, il faut faire la compta, faut faire les paquets, faut faire plein de choses.
C'est ça.
Je sais bien, je suis passée par là. Mais je pense qu'avec un peu de recul, si tu essayes par exemple de faire une liste de toutes tes tâches, de tout ce que tu fais par exemple, tu peux faire, tu vois, tu prends une semaine type, tu peux le faire par exemple à partir de la semaine prochaine, du lundi au vendredi si tu travailles du lundi au vendredi ou même du samedi au dimanche si tu travailles même le week-end, et t'essayes de noter à chaque fois que tu fais quelque chose, qu'est-ce que tu fais, combien de temps ça te prend, et tu vas voir que quand tu vas relever le compteur à la fin de la semaine, tu risques probablement quand même de te rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais. Je dirais pas que c'est pas des choses utiles, mais en tout cas, c'est des choses qui peut-être pourraient être faites plus tard ou c'est des choses sur lesquelles il faudrait peut-être moins que tu sois concentré. Et si tu prends un petit peu de recul, peut-être que tu vas te rendre compte que tu pourrais passer plus de temps à essayer de démarcher des clients, j'en sais rien, négocier des prix, essayer de travailler, ton marketing, faire par exemple de la pub sur Facebook, etc. Des choses qui peuvent générer vraiment du chiffre d'affaires. Et ça pourrait te permettre d'avoir donc en fait, ces ventes qui vont tomber, qui vont te permettre ensuite de pouvoir embaucher. Parce que je ne me rends pas compte, si tu veux, quel est ton niveau de chiffre d'affaires et si tu peux même pas, entre guillemets, embaucher par exemple, des freelances ou un stagiaire, sachant que, voilà.
Ouais, non, non, c'est vrai que ça reste encore très, très limité parce qu'au final, nous, la société fonctionne depuis maintenant peut-être 6 mois. Donc, on est vraiment tout, tout jeune et c'est vrai que je me rends compte que peut-être des choses qui, en effet, sont un peu trop chronophages que je pourrais arriver à supprimer ou à mettre à un moment donné dans le mois ou ce genre de choses pour que ça,
Exactement.
pour avoir le plus
Bah, déjà, moi, tu vois, les conseils que je peux te donner, c'est tout ce que tu peux rendre systématique, fais-le. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si jamais tu as des tâches que tu peux faire à la chaîne, entre guillemets, dis-toi que ça va toujours beaucoup plus vite de faire des tâches à la chaîne. Donc, mettons par exemple, tu sais que tu as des mails clients auxquels il faut que tu répondes plusieurs fois, enfin, soit plusieurs fois par jour, soit en tout cas que tu en as, mettons, je sais pas, 30 à répondre par jour. Bah ça, en fait, plutôt que de répondre un peu au fil de l'eau quand tu as le temps, tu te dis, je sais pas, le lundi matin quand j'arrive, de 9h à 10h, et tu te fixes, tu vois, un timing, je réponds à tous les mails clients et je descends la liste, et tu es un peu en mode j'abats le boulot, quoi. Et ça, si tu veux, si tu le fais un peu à la chaîne, entre guillemets, que tu t'organises et que vraiment tu es très focalisé, tu vas te rendre compte que très probablement, tu vas gagner beaucoup de temps. Parce que bien souvent, quand on est entrepreneur, on a 1000 idées à la minute, on a envie de tout faire. On est sans arrêt interrompu, bah, par un appel entrant, qu'un collaborateur, un client qui appelle, ce que tu veux. Et du coup, il y a quand même une réalité, c'est que même si on travaille beaucoup, on a un peu tendance à s'éparpiller. Et souvent, les gens d'ailleurs se sentent submergés un peu à cause de ça, parce qu'en fait, ils ont l'impression de courir dans tous les sens. Et c'est vrai, c'est pas qu'ils sont flemmards, bien au contraire. En général, les entrepreneurs sont tous flemmards, mais c'est qu'en fait, ils ne le sont pas assez. C'est ça le problème. C'est que s'ils étaient un peu plus flemmards, ils s'organiseraient de telle sorte qu'ils aient besoin, tu vois, de minimiser le boulot. Et donc, il y a peut-être un peu de ça dans ton cas, je
Ouais,
pense.
je suis pas quelqu'un de très organisé dans la vie de tous les jours.
Bah, malheureusement, tu vas te rendre compte que avec l'entrepreneuriat, moi je te rassure, hein, je ne suis pas à la base quelqu'un d'organisé. Enfin, en tout cas, c'était pas, je pense, naturel pour moi, tu vois, de siloter un peu mes journées, de créer justement, tu vois, des plages horaires récurrentes avec certaines tâches. Et en fait, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir à abattre vraiment du travail, à faire, à produire de la valeur tout en gardant une vie à côté, bah, en fait, il faut vraiment s'organiser. Et c'est pas si horrible que ça, et c'est pas si psychorigide. Au contraire, ça va te permettre de te libérer le cerveau de plein de micro-décisions parce que tu n'auras pas à te dire là, qu'est-ce que je fais en fait. Et déjà, ça, c'est du temps perdu, hein, by the way, de se dire et là, c'est quoi le prochain truc. Si tu sais à l'avance que dans ton planning, toutes les semaines, une fois de plus, le lundi matin de 9 à 10, tu réponds au mail client, que le lundi après-midi, tu fais les paquets, je dis n'importe quoi, hein. Bah, en fait, déjà, tu n'auras pas à penser à qu'est-ce que je dois faire, et puis tu vas voir que tu vas être très focalisé sur le fait d'agir, et donc ça va te faire gagner du temps que tu pourras ensuite consacrer probablement à des choses à plus haute valeur ajoutée, si je puis dire, c'est-à-dire démarcher des clients, relancer, je sais pas, lancer des campagnes sur Instagram ou sur Facebook pour essayer d'en avoir plus, et donc générer du chiffre d'affaires, ou peut-être recruter d'ailleurs.
D'accord, génial. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'au final, on a très vite tendance à s'éparpiller sur plein de choses. On veut répondre à des mails, puis après on a des urgences et en fait on a l'impression de toujours gérer les urgences. Et c'est vrai qu'en fait au final, quand on regarde avec le recul, on a certaines urgences qui en fait on se rend compte que ce n'en est pas du tout quoi. Que les personnes peuvent attendre 2 heures, 3 heures,
C'est ça.
une journée, et ça va pas changer le problème quoi.
Bah, moi, je peux te dire deux choses à ce propos. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui, moi, m'a un peu changé la vie, franchement, parce que j'étais. Et vraiment là-dessus, je veux te rassurer et enfin, comment dire, te faire comprendre que t'es pas unique au sens où tout le monde galère de la même manière et qu'en fait t'es pas plus nul qu'une autre là-dessus, parce qu'en fait franchement je pense que tout le monde au départ est complètement submergé par le nombre de choses qu'il y a à faire, et puis on perd du temps comme je te disais, entre le fait que tu passes complètement d'une activité à une autre qui n'a rien à voir, tu te fais tout le temps interrompre. J'ai eu un peu une révélation un jour quand j'ai entendu une phrase qui m'a fait vraiment réfléchir. C'est une phrase en anglais qui dit « Either you run the day or the day runs you ». Et là j'ai compris que soit t'es maître de ta journée et c'est toi qui décides comment tu vas l'organiser. Sinon, en fait, tu es en permanence dans la réactivité, tu es en permanence dans le fait d'essayer de juste boucher des trous, d'éteindre des feux. Et en fait, sincèrement, c'est hyper, hyper épuisant. Et donc, il faut que, plutôt que d'éteindre des feux, bah, en fait, tu construises, si je file la métaphore, une canalisation qui va pas péter et qui va faire que tu vas pouvoir, tu vois, te concentrer sur les trucs qui te plaisent vraiment, parce que sinon, ta vie va être un enfer, franchement. Donc, ça a été ma réalisation. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris mon agenda et j'ai commencé à réfléchir, ok, c'est quoi les trucs sur lesquels il faut que je passe vraiment du temps, comment je m'organise, Et concrètement, tu le mets dans ton agenda. Tu décides à l'avance, tu vois, là, il me faut 2 heures par semaine sur ça, 2 heures par semaine sur ça. Je ne peux pas te dire là ce que c'est, mais vraiment, il faut le faire de manière extrêmement pragmatique. Ça va évoluer. Si tu veux, tu ne vas pas avoir la bonne réponse et le bon système tout de suite, mais tu vas te rendre compte qu'au bout de quelques semaines, je pense qu'assez rapidement, tu vas en fait probablement peut-être même avoir des après-midi entières où je ne dis pas que tu n'auras plus rien à faire, mais en fait, tu auras fait tout ce que tu faisais précédemment et tu auras du temps en plus.
Ouais. Ça, ce serait cool. J'ai hâte.
C'est assez magique quand ça arrive. C'est assez magique quand ça arrive. Donc voilà. Mais pour revenir à la question de l'embauche versus, tu vois, autre chose, je pense que la première étape pour moi, c'est déjà que toi, tu clean un peu ton emploi du temps et que tu te rendes compte que... Enfin, tu te rendes compte où. Tu essayes de faire en sorte, en fait, de te libérer du temps. Ça, c'est la première chose. D'accord. La deuxième chose, après, effectivement, il y a bien un moment, je pense, où ton activité va se développer suffisamment pour que tu aies envie de te faire aider et ça sera nécessaire et que tu puisses te concentrer sur d'autres tâches. Et donc ça, il faudra que tu décides. Moi, c'est vrai que je ne suis pas forcément hyper... quand on démarre dans une activité, je ne suis pas forcément pour le fait d'embaucher tout de suite. Pas que je n'ai pas envie de créer de l'emploi en France, bien évidemment. Mais je trouve que souvent, c'est très difficile d'embaucher quelqu'un. Et que souvent, quand on est entrepreneur, comme on fait un peu tout, on ne sait pas exactement pourquoi on embauche la personne. On l'embauche globalement un peu pour se faire aider sur tout. Mais ça, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une fiche de poste précise. Et la personne, si tu veux que tu vas embaucher, elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas enfin, ce n'est pas sa boîte. Donc en fait, si tu l'embauches pour faire comme toi, et toi déjà que tu te sens submergé et que c'est difficile, dis-toi que la fille, elle, ou le mec, ils vont partir en vrille assez rapidement. Donc, je te conseillerais plutôt de commencer par essayer de passer par des freelances, par exemple, donc des indépendants qui peuvent t'aider sur certaines tâches spécifiques. Peut-être un premier stagiaire, juste pour, entre guillemets, te faire la main. Et pas que j'ai envie que les stagiaires soient maltraités, c'est pas ça. Mais disons qu'au moins, ça soit moins risqué, si tu veux, pour toi et pour la personne, parce que même un stage, au final, c'est que 6 mois dans une vie. Si jamais tu t'es complètement planté sur la fiche de poste et qu'en fait, tu te rends compte qu'il te faut une personne juste au entre guillemets pour faire du marketing et des ventes et pas du tout pour faire tout, bah, il vaut mieux que tu t'en rendes compte tu vois, de manière flexible plutôt qu'en ayant fait une proposition d'embauche où en fait après ça va mal se passer et tu vas devoir terminer le contrat.
D'accord. Ok.
Donc voilà. Bah écoute, en tout cas, c'est très intéressant comme question. J'espère que tu vas réussir à trouver la perle rare.
C'est ça. Bah, déjà, je vais pouvoir me refaire un petit agenda. C'est vrai que c'est très bête, mais dans ma tête, je suis en train de me dire « Ah ouais, mais ça me fait penser comme quand on était au collège, au lycée, on avait notre agenda, telle heure, c'était cours de français, tel machin. » Je me dis « Bah, en fait, je vais faire exactement la même chose avec des couleurs et puis je vais voir comment je m'organise avec tout ça et voir si j'arrive à me dégager du temps et si vraiment j'ai vraiment, en fait, au final, besoin d'avoir une main en plus actuellement, quoi. »
Exactement, bah, t'as tout compris et je pense que ton image de l'école, elle est peut-être pas sexy pour beaucoup d'auditeurs, mais en réalité, elle est hyper juste parce qu'en fait, juste avoir un agenda à l'avance, un planning à l'avance, pouvoir s'organiser à l'avance, même tu vois, c'est bête, le soir, tu sais très bien comment tu vas t'habiller si tu veux pour le lendemain, parce qu'en fait, comme t'as ton agenda qui est déjà prêt, si tu veux, c'est un peu comme quand on mettait dans son cartable ses crayons, son compas quand on avait un cours de maths, bah, c'est exactement la même chose. En fait, ça va te faire gagner du temps. Donc n'hésite pas effectivement à faire tout ça.
Parce que moi, je note déjà tout dans mon agenda, mais c'est vrai que je note pas, c'est de telle heure à telle heure, je fais telle chose. En fait, je note tout ce que j'ai à faire et puis après, j'essaye de gérer au plus urgent et au plus... voilà. Et en fait, au final, c'est vrai que peut-être de suivre des choses un peu plus droites, ça me permettra en effet de me dégager énormément de temps, quoi.
Dis-toi qu'il y a une vraie grosse différence entre les priorités et les urgences. Et bien souvent, les urgences ne sont pas prioritaires. Alors, ça veut pas dire qu'il faut... pas les traiter. Quand c'est une vraie urgence, si tu veux, bah, malheureusement, entre guillemets, t'es obligé de la traiter. Mais du coup, il faut le prendre avec beaucoup de recul parce que c'est du temps que tu ne consacres pas à tes priorités. Et donc, il faut faire très attention à ça et plutôt privilégier la priorité que l'urgence. Typiquement, une priorité, c'est générer plus de chiffre d'affaires. Et ça, à toi de faire un espèce d'état des lieux de qu'est-ce que ça signifie comme action concrète, tu vois. Est-ce que c'est effectivement travailler du web marketing? Est-ce que c'est travailler ton produit? Je ne sais pas. Mais disons que c'est ça ta priorité et c'est probablement pas de, je ne sais pas... racheter une énième boîte pour faire des colis. Une fois de plus, je dis n'importe quoi. Et une fois de plus, l'urgence doit être traitée, mais souvent avec du recul, on se rend compte qu'elle est pas si urgente que ça et qu'on pourrait tout à fait la laisser, parfois ne pas la traiter d'ailleurs, et la laisser un petit peu plus tard.
Oui, surtout qu'en plus, c'est dommage parce que je suis quasiment toute seule sur le marché internet de la demi-bouteille. Donc, c'est vrai que j'ai le marché qui est quand même assez ouvert pour moi. Et du coup, c'est un peu dommage de ne pas arriver à avoir le temps de relancer les gens, de vraiment être en permanence sur la prospection parce que je passe ma vie à courir
Exactement.
après d'autres lapins, quoi.
Exactement.
Un peu dommage.
Exactement, tu as tout compris. Exactement, c'est ça. Il faut être concentré sur ce qui nous fait vibrer. Et puis surtout, sinon, tu vas t'épuiser. Et je pense que c'est pas pour ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Tu vois, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat parce que tu crois à un projet, que tu crois à ton produit et que tu as envie de le montrer au monde. Tu n'as pas envie d'avoir à gérer juste des problèmes toute la journée. Alors évidemment, l'entrepreneuriat, c'est aussi d'avoir à gérer des problèmes toute la journée. Mais du coup, il
C'est
faut
ça.
essayer de s'organiser pour qu'on fasse pas quand même que ça.
D'accord, super. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie parce que ça m'a remis les idées en place.
Eh ben, je suis ravie. Écoute, tiens-moi au courant. Je suivrai du coup ton compte. Et puis, j'espère que ça va évoluer comme tu le souhaites. En tout cas, bah, merci pour tout. Et puis, je te dis à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse, donc à vous de jouer, et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.